Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur l'Internet. Dieu vous bénisse. Alors, ça y est, c'est encore vendredi soir, comme chaque fois. On dirait que c'est toujours vendredi soir. Vous n'avez pas cette impression, vous ? Oh, c'est terrifiant. Il me semble que chaque semaine, c'est vendredi, tous les jours. Luc, chapitre 8, on va commencer. Luc 8, 43 à 48. C'est un texte que vous connaissez tous, vous l'avez déjà tous entendu prêcher mille fois. Mais voilà, 43, Luc 8, 43, pardon. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit : « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent : « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis : « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit : « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter aux pieds du Seigneur. À ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit : « Ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix. » Amen. Amen. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai prêché souvent sur ce texte, et puis j'ai souvent pensé à cette femme qui souffrait, mais là, dans l'épreuve qui est la nôtre depuis 11 mois maintenant, eh bien, l'histoire de cette femme m'est apparue sous un angle encore un peu différent, et ça m'a fait du bien, et c'est pourquoi je veux partager cela avec vous ce soir. Et puis je suis sûr que vous qui vivez là, je ne sais pas où, et qui nous écoutez sur Internet, vous n'êtes pas sans avoir des problèmes. Violette, la femme de Raphaël, l'homme de Dieu qui m'a conduit au Seigneur, disait toujours : « Le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre
toujours. »
Voilà, elle disait toujours ça, et elle avait raison, c'est comme ça. On n'est pas épargné. Alors, ce qui m'a frappé le plus là, c'est que cette femme souffrait pendant 12 ans. C'est long, 12 ans, dans la souffrance. Et puis l'affaiblissement, parce que comme elle perdait du sang, elle était affaiblie, souvent. Je pense à elle, je pense à ses souffrances, que tout ce temps dans la souffrance, le temps. Et donc, évidemment, j'ai pensé à un mot qui ne colle pas du tout à mon caractère, c'est le mot « patience ». Vous avez deviné, c'est merveilleux. Mais doucement, j'ai pris conscience de quelque chose. Vous savez, quand on écoute Dieu dans son cœur, qu'on écoute le chuchotement du Saint-Esprit, on apprend des choses tout doucement. Et c'est en pensant à cette femme, en la voyant vivre, en l'imaginant, sa patience, ça n'a pas été... On ne peut pas dire qu'elle a manqué de paix pendant tout ce temps-là. Ni de passivité pendant tout ce temps-là. Qu'est-ce que c'est la patience ? Je crois que pendant des années, j'ai confondu le mot patience avec cette expression, la résignation passive. En fait, c'est ça. J'aime pas la résignation passive. Mais c'est pas que je suis pas. Alors là, c'est une révélation. Je ne suis pas impatient. Vous comprenez la chose ? Je vous dis, mes frères et sœurs, chaque fois qu'on chantait le petit chant là qui dit « Je suis tout le temps patient », je faisais toujours un peu la grimace parce que j'ai l'impression de mentir quand je chantais ça, parce que je dis « Non, je suis pas patient pour deux ronds ». Eh bien, c'est faux. C'est une mauvaise compréhension de la chose. Le Seigneur m'a éclairé et m'a rassuré. Je ne manque pas de patience. C'est comme je ne manque pas de volonté. Vous vous rappelez ce que je vous avais fait une fois ? Si vous mettez vos deux bras comme ça dans le métro et que vous marchez aux heures de pointe, comme ça, dans le métro, vos sens vont vous dire qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ça fait mal, mais il n'y a pas que ça. C'est que ce n'est pas pratique et ça gêne tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous faites ? « Ah ben, je n'ai pas la volonté de baisser les bras. » Ben si, vous avez la volonté de baisser les bras. Vous ne voulez pas baisser vos bras, c'est tout. Si vous voulez les garder comme ça, vous les gardez comme ça. C'est très bête, ça fait souffrir, ça dérange tout le monde. Mais vous pouvez les baisser. Alors, ceux qui les baissent comme ça, c'est-à-dire juste la moitié, pas complètement en bas du corps, c'est pas qu'ils ont un peu de volonté et pas assez de volonté, c'est qu'ils veulent bien les baisser comme ça. Ils ne veulent pas les baisser jusqu'en bas. Vous comprenez la chose ? Avec la patience, c'est la même chose. Je ne veux plus jamais dire que je manque de patience. C'est aussi faux que de dire que je n'ai pas de volonté. C'est un fruit normal du Saint-Esprit. C'est simplement un mensonge. J'étais victime d'un mensonge et je me laissais accuser par un mensonge. Non, Satan, je ne suis pas impatient, c'est faux. Cette femme n'était pas passive. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour se sortir de sa souffrance. Elle faisait tout. Elle courait dans tous les coins d'Israël et peut-être même de l'étranger. Elle devait avoir une petite fortune. Elle l'a dépensée en voyage pour aller voir un tel guérisseur, un tel médecin, un tel charlatan, un tel ceci, un tel cela, qui lui faisait des, je ne sais pas quoi, des massages ou je ne sais pas quoi. Enfin, elle a dépensé tout son pognon, son énergie. Elle n'était pas passive, elle voulait se débarrasser réellement de son problème. Et puis, elle avait donc partout un espoir de guérison. Elle voulait guérir. Mais cette femme perdait son sang, elle faisait des hémorragies graves, elle se voyait mourir. Est-ce qu'elle avait le temps pour être négative? Non, elle se battait. Elle ne voulait pas mourir, elle se battait. Était-elle impatiente? Non, simplement. Elle n'était pas résignée passivement, comptant sur Dieu, n'est-ce pas? Compter sur Dieu, c'est pas la foi, mes frères et sœurs. Il faut arrêter aussi avec ce mensonge. Compter sur Dieu, ça n'est pas la foi. Parce que la foi, elle est active. Si elle n'est pas active, elle n'existe pas. Pour le dire en termes bibliques, la foi sans les actions, c'est mort. Ça veut dire que ça n'existe pas. Donc tout ce que vous faites pour vous sortir de vos problèmes, tout ce que vous faites, tout ce que vous brassez pour pouvoir vous sortir de vos problèmes, même si ça marche pas, ça c'est de la foi, c'est des actes. Et Dieu voit ça. Et cette femme, elle a bougé, elle a fait des tas de choses jusqu'à ce que finalement, elle avait tout perdu parce qu'elle a, elle avait, elle... Mais Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Voilà ce qui est écrit. Il bénit nos décisions, il bénit nos actes. Et puis ça finit toujours bien. Pourquoi? Parce que Dieu a promis que ceux qui cherchent, ils... Est-ce que cette femme, on peut dire que Dieu l'a bénie dans ses actes? D'aller chercher des médecins, d'aller chercher la guérison à gauche, à droite. Est-ce qu'on peut dire qu'il a béni ses actes pendant 12 ans? Pas vraiment, hein? Pas vraiment. Ben, moi je vois que cette femme était tellement déterminée. Elle savait tellement ce qu'elle voulait... que dans sa recherche, elle a fini par rencontrer quelqu'un qui avait rencontré quelqu'un qui avait entendu parler de Jésus. Puis elle a dit, ben, je vais aller aussi le voir, celui-là. Et elle y est allée. Et puis elle ne s'est pas précipitée vers lui pour toucher son vêtement. Elle l'a fait parce que certainement, elle avait dû écouter d'abord. Elle a entendu Jésus parler. Et elle a eu la foi, elle a cru. Et elle a touché et elle a été guérie. Elle ne l'aurait pas rencontré si elle était restée chez elle à prier, à jeûner, sans s'activer. Elle ne l'aurait pas rencontré. Beaucoup trop de chrétiens ont peur d'agir. Et je peux comprendre ça. Je peux comprendre ça. Ils ont peur de ne pas faire la volonté de Dieu. Il y a des textes qui font peur dans la Bible qui disent « Seulement ceux qui font la volonté de Dieu seront sauvés ». Ça peut faire peur si on est négatif. Mais si on est positif, ça ne fait pas peur. On comprend ce que Jésus veut dire par là. Alors, ils ont tellement peur de faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qu'ils font rien. Ils prient, ils s'attendent à Dieu. Et puis, ils croient être très spirituels en plus en faisant ça. Et puis, ils se croient humbles, ils se croient patients. Seigneur, c'est que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Mais ils ne sont pas humbles, ils ne sont pas patients, ils ne sont pas spirituels. Ils sont juste dans l'inaction causée par la peur de se tromper. Être patient, c'est attendre et persévérer d'une manière active. Voilà ce que c'est être patient. Je répète, c'est attendre et persévérer d'une manière active. Ça veut dire que nous tenons à ce que nous voulons. Ça veut dire que même si nous désirons de tout notre cœur et que ça ne nous est pas accordé tout de suite, on ne baisse pas les bras, on est patient, on continue. Pas seulement à persévérer, mais à bien persévérer. Persévérer en croyant, c'est pas bien. Je crois. Oui, je crois. Je crois à la belle affaire. je crois. Persévérer à croire, ben ça, c'est être religieux, c'est être passif. Cet après-midi, avec quelques frères, on a regardé le film Exodus, qui vient de sortir en vidéo. Bon, il n'est pas 100% biblique. Bon, mais enfin, bon, voilà, on ne va pas venir là-dessus. Mais j'imagine un Moïse qui est passif. Imaginez un Abraham passif. Imaginez un Jésus passif. Un Paul passif, le pire, Pierre. Imaginez Pierre passif. Imaginez Daisy Osborne passive, hein, ceux qui l'ont connu. Imaginez frère Osborne passif, en train de prier, de genoter dans sa chambre. Tchè, jamais, jamais. Ils n'attendent pas que Dieu fasse, ils font. Ils font au nom de Jésus-Christ. Vous avez décidé d'aller en, je ne sais plus où, en Asie? Ils y vont. Le Saint-Esprit ne veut pas qu'ils y aillent, il les dirige ailleurs. Mais s'ils n'avaient pas été d'abord, le Saint-Esprit n'aurait pas pu les diriger ailleurs. Il faisait. De notre vie prémortelle, notre Père Céleste a conçu un plan pour nous et quand nous étions en train de le regarder créer les cieux et la terre, qu'est-ce que la Bible dit que nous faisions? Nous battions des mains. C'est écrit dans Job 38, 7. On était contents parce qu'on savait, nous avait averti, qu'on allait venir sur cette terre et qu'on allait pouvoir manifester notre amour, notre foi, toutes ces choses-là, en ayant perdu la mémoire des choses de Dieu, mais qu'on allait retrouver petit à petit. On était réjouis de savoir, de connaître ce plan, on trouvait ça formidable. Alors, maintenant, il nous faut nous conformer à sa volonté, maintenant qu'on y est. C'est pas compliqué. C'est-à-dire, c'est quoi se conformer à sa volonté? C'est d'être des acteurs de la foi et non pas des passifs de la foi. Si on lit Philippiens 4, 3, 13, il est dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Tout, c'est quoi? Ça laisse une marge immense. Je peux tout. Enfin, au moins, tout ce que je peux imaginer, tout ce que je peux concevoir avec mon intelligence, sans que ça me... Sans marcher au plafond, mais je pourrais si je voulais, mais c'est inutile, c'est stupide. Marcher sur l'eau, c'est déjà juste. Hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Je peux tout par celui qui me fortifie. Ça me laisse des marges immenses. Qui peut tout? Un véritable enfant de Dieu qui a une véritable foi en Dieu, active, eh bien, il peut tout. Il peut tout parce qu'il est un vrai enfant de Dieu. Il est comme son père. Et son père, il sait très bien que rien n'est impossible à Dieu. Donc, nous avons à cultiver ça, plutôt que de nous laisser hypnotiser, n'est-ce pas, par l'ennemi qui nous dit que ceci, que cela, qui nous décourage et tout. Et moi, je tombe dans le découragement parce que je crois des choses fausses. Je crois que je suis impatient, je crois... C'est faux. Je peux donc tout par celui qui me fortifie. Or, comment est-ce qu'on se fortifie? Psaume 84, 8. Je me fortifie dans la marche. Je ne me fortifie pas dans l'inaction passive. Je ne me fortifie même pas à genoux dans la prière. Je ne me fortifie pas dans le jeûne. Je me fortifie dans la marche quand je vais de l'avant, quand je suis en marche, quand je suis en action. C'est là que je me fortifie. Il y a un texte qui nous dit aussi comment se fortifier. Celui qui parle en langue, il se construit, il s'édifie, il se fortifie lui-même. Mais parler en langue, c'est un acte de foi. Des fois, j'en entends ça. C'est quoi ça? Il faut mettre de l'énergie dans ce qu'on fait pour le Seigneur. Et non pas se traîner comme des vieilles limaces. Hein. En vérité, être patient, c'est être ferme. C'est être constant, c'est être immuable à garder les commandements de Dieu qui sont écrits. On sait où ils sont, on connaît, on sait. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 16, 13. Il dit « Soyez des hommes, même les femmes, soyez des hommes » dans une version plus courante, celle d'Alfred Kuhn. Il dit « Soyez virils ». Ça n'a rien à voir avec la moquette qu'on a sur la poitrine. « Soyez virils », ça veut dire « Soyez courageux ». Quelqu'un de courageux, il ne reste pas caché dans sa chambre à prier. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour agir. Et mes enfants, si vous passez plus de temps à prier qu'à agir, eh ben, c'est sûr que vous allez rater quelque chose. La Bible nous dit « Examinez-vous vous-même ». C'est Paul, il dit aux mêmes Corinthiens. Il leur dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous ? » Pierre lui dit, « À moins que, peut-être, vous ne soyez réprouvés. » Vous voyez comme il les prend ? Il dit, « Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous, nous ne sommes pas réprouvés. » 2 Corinthiens 13, 5, 6. Et il y a un nouveau sous le soleil. Les Corinthiens se permettaient de penser que Paul et ceux qui étaient avec lui étaient réprouvés, dictionnaire, réprouvés. Se dit d'un pécheur exclu du salut éternel par jugement de Dieu. L'apôtre Paul, vous voyez, il y a toujours eu des choses comme ça. C'est pas nouveau. Est-ce que Paul s'est laissé décourager ? Non. David, qu'est-ce qu'il chantait ? Quand il était en plein dans les problèmes, il dit, j'avais mis ma confiance en l'éternel j'avais placé mon espérance, il s'est incliné vers moi. Ah, Dieu qui s'incline. D'habitude, c'est plutôt le contraire, hein ? Dieu s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, il était vraiment bas, hein ? Il m'a retiré du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Et c'est pas de la poésie, c'est du vécu. David, il a vécu ces choses. Et c'est pas arrivé comme ça rapidement, ça a duré, c'était long. Cette femme, c'était 12 ans, David, c'était des années aussi, il a fallu que David se cache. Il a fallu que David, qui était habitué au palais, il a fallu que, voilà, il redevienne comme quand il était avant, même pire que quand il était berger. Il a fallu qu'il se batte, il a fallu qu'il fasse des choix, il a fallu qu'il agisse. C'était pas simplement je me confie dans l'éternel, puis je reste au fond de ma caverne, puis j'attends que ça se passe. Ou alors j'ai mal lu David. Alors j'ai compris que je ne suis pas un impatient. J'ai compris que je suis juste un acteur de la foi. Je me rappelle du pasteur Le Cossette qui m'avait dit une fois, on descendait à Lyon en train, et puis il me parlait de l'Inde, il me parlait des projets qu'il avait pour l'Inde. Je dis, mais vous avez des projets sans arrêt, tout le temps, tout le temps. Il dit, j'ai toujours 10 projets en cours, et en général, il y en a 2 qui marchent, puis le reste, ça s'effondre, parce qu'il n'y a pas assez d'hommes et de femmes qui me suivent. Ils ont toujours un peu la trouille. Mais c'est pas grave, il faut avoir des projets toujours. Toujours, sinon on n'est pas vivant, on ne se sent pas vivre. Je me rappelle quand je suis allé en Inde, on n'était même pas fiancés avec la Michou. Je venais juste de me déclarer à Michou. Je pars en Inde, mes amis me disent « C'est la volonté de Dieu, t'as prié, t'es sûr ? Est-ce que t'es sûr que c'est Dieu qui veut que t'ailles en Inde ?» Je dis « Non, je n'ai pas prié, mais je sais que de toute façon, Jésus dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne parole, je vais pour prêcher. » Et à mon avis, l'Inde, c'est dans le monde, donc j'y vais. C'est pas interdit d'y aller, j'y vais. « Oui, mais Michel, te rends compte, c'est un pays, c'est dangereux. » Je dis, il y a des millions de gens qui y vivent. Mais ici aussi, c'est dangereux. Pourquoi ça serait plus dangereux là-bas que... Non, moi, j'y vais. Mais il faut que tu prennes le temps de prier pour demander à Dieu. Je dis, j'ai pas le temps. Je pars dans 3 jours, j'ai un visa à faire, j'ai mon passeport à faire. J'ai pas le temps d'attendre que Dieu me dise s'il veut que j'y aille ou pas. J'y vais. Je suis parti avec Christian Dufour, le missionnaire. J'arrive là-bas en Inde. Pendant ce temps, j'avais des amis qui avaient trouvé Michou, qui était malade à cette époque-là. « Michou, tu ne vas pas te marier avec Michel, tu te rends compte, il est charnel. Il est parti en Inde, il te laisse là à l'hôpital, toi qui es malade. Il te laisse là comme ça, dans cet état-là. Il n'a même pas demandé si c'était la volonté de Dieu qu'il parte. Tu ne vas pas marier cet homme-là quand même. » J'arrive en Inde. Christian Dufour, ayant pitié de moi, qui était gros comme j'étais un sac d'os à l'époque. Il n'a pas voulu me faire dormir par terre sur une natte. Il m'a donné son lit, enfin le lit qu'il avait, lui et sa femme. Et eux, ils ont dormi par terre, ils étaient trop gentils. Première nuit, je m'allonge et je vois les tuiles. Sur les tuiles, c'est écrit Krishna, 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 sur toutes les tuiles. Qu'est-ce que c'est le faux Dieu Krishna qui est là dans cette maison, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais très pentecôtiste à l'époque. J'avais quoi, 22, 23 ans, 21, 22 ans. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, je dis à Christian, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce que t'as laissé ça, Krishna, partout? Il dit, mais les Krishna, c'est comme les Dupont en France, il y en a partout des Krishna ici, tout le monde s'appelle Krishna, c'est comme en France les Dupont et les Durand. Je dis, bon d'accord, ça n'a rien à voir avec Dieu. Il dit, rien du tout, rien du tout, rien à voir avec la religion, il dit, rien du tout. Alors le lendemain, j'étais plus tranquille dans mon lit, et je sais que je dormais pas, parce que justement j'étais en train de regarder toutes ces tuiles là, et puis tout d'un coup j'ai entendu la voix de Dieu, comme je vous entends là. Et il m'a dit, les vieux dans la communauté le savent, parce que je l'ai déjà raconté, il m'a dit, j'ai entendu sa voix me dire, retourne en France et dis à tes frères que tu n'as fait que ce que je t'ai dit de faire. m'avait rien dit. Sinon, dans Marc chapitre 16, où il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Je suis allé là-bas, à l'autre bout du monde, et j'ai prêché la bonne nouvelle. Il y a eu des conversions, il y a eu des guérisons. C'était merveilleux. Alors, voilà, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est agir par la foi, oser faire des choses. Toujours en train d'avoir peur. L'amour, dans l'amour, il n'y a pas cette peur-là. Quand on aime Dieu, on est sûr qu'il veille sur nous, qu'il ne nous conduira pas dans des faux chemins. On est sûr. Et il va faire la même chose pour vous, dans votre vie. Regardez cette femme, malade, pendant combien d'années de patience active, eh bien, finalement, sa foi en Jésus a été récompensée. Ça aurait été plus vite si elle avait rencontré Jésus tout de suite, mais quand elle a commencé à chercher sa guérison, Jésus n'avait pas encore commencé son ministère. Puisque ça faisait 12 ans qu'elle était malade. Frères et sœurs, nous avons fait le bon choix. Nous avons fait le choix de rester fidèles à notre engagement communautaire. Ça, c'est un choix, c'est une action, c'est une prise de position. Nous avons décidé d'être fidèles au renouvellement d'alliance de la communauté que nous avons faite le 28 juin 2009. 28 juin, ça ne vous dit rien? 5 ans après, il y a eu plusieurs qui ont fait parjure. Mais nous, nous restons fermes. Nous croyons que Jésus rétablit son Église activement. Et comme nous croyons que Jésus aime son Église, et comme nous aimons la venue de Jésus qui est proche, eh bien nous entrons activement dans ce rétablissement. Pas passivement, mais activement. Certains se sont posé la question tout au long des siècles, mais est-ce que vraiment il faut obéir à tout ce qu'on trouve dans la Nouvelle Alliance? Est-ce que c'est pas des fois un peu fanatique? Est-ce que c'est pas des fois un peu exagéré? Ma réponse, elle est simple. Je crois que Dieu sait des choses que nous ne savons pas. Je crois que il y a des choses qui dépassent notre entendement. C'est certain. Notre Père Céleste est un être éternel dont l'expérience, dont la sagesse et l'intelligence sont infiniment au-dessus des nôtres, donc de nos croyances, de ce qu'on peut concevoir. Il faut que nous acceptions qu'il est beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus sage, beaucoup plus intelligent et qu'il sait des choses que nous, on ne sait pas. Et apprendre, accepter d'apprendre. Je crois que nos difficultés, mes frères et sœurs, viennent en partie de ce que nous imaginons que Dieu a enfermé toutes ses bénédictions merveilleuses pour ses enfants et puis dans un espèce de gros nuage et qu'il refuse de nous les donner à moins que nous respections à toutes ces exigences strictes, n'est-ce pas, et paternelles, comme il les a fixées. C'est ça qui... C'est terrible, ça. Les commandements de Dieu, c'est pas ça. Les commandements de Dieu, c'est pas ça. C'est pas du tout comme ça. En réalité, notre Père Céleste fait constamment pleuvoir sur nous sa bénédiction. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 1. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, donc en Jésus-Christ, et ça doit se répercuter ici-bas. Qu'est-ce qui empêche? Ce sont nos peurs. Ce sont nos peurs, ce sont nos doutes, ce sont nos péchés qui font comme un parapluie qu'on met au-dessus de notre tête et qui empêche la bénédiction de venir sur nous. Parce que les commandements de Dieu, c'est pas fait pour que on obéisse strictement à sa volonté, sinon attention, je vous bénis pas. Non, c'est pas ça. Les commandements de Dieu sont des directions aimantes. Elles sont l'aide de Dieu qui nous permettent de fermer le parapluie. Vous comprenez? C'est très différent. Voilà à quoi ça sert les commandements de Dieu. À fermer le parapluie de la peur, des mensonges du diable qui viennent nous intimider, afin qu'on puisse recevoir cette pluie de bénédictions célestes. Alors il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut simplement fermer le parapluie. Comment? Ben, en observant les commandements. Ça nous donne une grande assurance. Ça nous donne une grande assurance quand on fait la volonté de Dieu écrite déjà. Et puis après, quand on apprend des nouvelles choses qui nous concernent plus personnellement, eh ben, on est content aussi. Alors ne perdez pas le fruit de l'esprit qui est aussi la patience. Ne vous laissez pas accuser par le diable qui vous dit que vous manquez de patience. Ne vous laissez pas, ça marche plus, ça marchera plus avec moi. J'ai fait longtemps ça, j'ai fait longtemps cette erreur, j'ai cru longtemps ce mensonge. Mais Dieu est patient. Dieu est bon. Il est également juste. Et c'est ce que nous devons être. Amen. Parce que C'est pas juste d'être maltraité par l'ennemi qui nous tient toujours la tête dans la boue, comme le pauvre David, ou comme cette pauvre femme avec sa perte de sang, ou comme tous ces chrétiens, tous ces gens qui souffrent. Que chacun vive sa propre histoire avec Dieu à sa façon. Moi, ma façon, c'est plutôt actif. J'aime ça. Vous savez, il y en a un de ces personnages qui ferait mieux de se mêler de sa propre vie, qui a dit dernièrement, « Oui, pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. » Vous voyez de qui je veux parler. Et j'ai tout à fait raison, c'est écrit. Si Dieu l'a permis que ça soit écrit dans la Bible, c'est que c'est vrai. Pour Dieu, 1000 ans, c'est comme pour nous un jour. Vous croyez ça? Alors laissez-moi vous dire quelque chose, ça va vous décomplexer. Bien, le comptable a bien compris, là, tout de suite. Il a fait le calcul. Je dis que la patience de Dieu a une limite. 7 jours. Ah, c'est choquant, ça, hein? Il a créé ce monde, le monde humain, avec Adam et Ève. Il y a seulement 7 jours pour lui. Le premier jour, ils sont tombés. Et puis, il a décidé, j'en ai marre, le 7e jour, je les écrabouille, je fous tout par terre, je fous tout en l'air. Voilà la patience de Dieu. Elle a des limites, 7 jours. Alors, j'ai aucun complexe à avoir, tant que j'agis par la foi. Tant que j'agis par la foi. Mais si je suis passif, là, j'ai tort. Jean 5, 17 nous dit, le Père agit, alors moi aussi j'agis. C'est Jésus qui dit ça. Puis Jésus a dit, tout ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. N'a-t-il pas dit ça? Alors on peut dire, Dieu le Père agit, alors Jésus agit aussi, et moi j'agis aussi. Et agir, c'est pas seulement prier. Jésus, bien sûr qu'on le voit prier, mais tout le reste du temps, il agissait au nom de son Père pour faire sa volonté. Et je sais qu'il y a un jour qui vient, Jésus dit, il y a un jour qui vient, et ça sera un jour où on pourra plus agir. Vous connaissez ce texte? Hein, ça sera la fin, on pourra plus agir. Et ce jour-là, mes frères et sœurs, là, je me permets d'être impatient. Je me réjouis que ça arrive. Je me réjouis qu'on en termine avec toute cette misère. Vous avez vu tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est épouvantable, ça vient de pire en pire, c'est effrayant. Donc, viens Seigneur Jésus, que Jésus revienne et qu'on en finisse avec cette ordure, avec cette furoncle qui est devenue notre pauvre vieille terre. Mais en attendant, soyons actifs par la foi et par amour. Amen. Merci Jésus de bénir ces quelques mots que j'ai dit à mes frères et sœurs, que cela fasse du bien à chacun, qu'ils se réjouissent. Et que s'ils se sont laissés aller un peu dans le découragement, eh bien qu'ils reprennent du zé, comme on dit en Suisse, et qu'ils se fassent du bien. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Gloire à Dieu.
Voilà.
Vous avez des réflexions, des... Ça va? Tout le monde va bien, mais c'est un peu sous le choc, là. J'ai dit au revoir aux frères et sœurs qui sont sur le net. Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.